France Culture, il est 16h. Tout de suite, Science Publique, Michel Alberganti.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Science Publique. Nous vous proposons le dernier volet des émissions de Culture Science consacrées tout au long de la semaine à la relève des savoirs. Comme toujours, vos réactions sont attendues sur notre site au sujet de notre débat d'aujourd'hui. Relève des savoirs, la recherche française peut-elle séduire les jeunes? Les défis de la recherche scientifique ne manquent pas. Tenez, prenez les inondations dont le pic se produit à Paris en ce moment même. Eh bien, personne n'avait prévu la rapidité de l'augmentation du niveau de la Seine. Le phénomène, pourtant très naturel, est assez complexe pour prendre les scientifiques de court. Cette importance de la recherche pour notre avenir est une évidence depuis fort longtemps. Dès 1964, une étude du commissariat au plan fixait l'objectif de 3% du produit national brut consacré à la recherche pour 1985. Ce chiffre de 3% était celui qu'appliquaient alors les États-Unis. On le retrouve mentionné lors du Conseil européen de Lisbonne en 2000. Approcher des 3% du PIB affecté à la recherche et développement en 2010. Or, en 2013, l'UE restait loin de la cible avec 2,1%. En France, la dépense intérieure de recherche et développement atteint environ 2,2% du PIB, loin derrière les 2,81% des États-Unis, les 2,87% de l'Allemagne, les 3,3% de la Suède et de la Finlande, ou les 3,5% du Japon, sans parler de la Corée qui dépasse les 4%. Ces chiffres représentent l'effort de R&D cumulé de l'État et du secteur privé. Ils déterminent donc les moyens consacrés à la préparation de l'avenir de chaque pays. Or, le 18 mai, un projet de décret annonçait une annulation de crédits de 256 millions d'euros pour la mission Recherche et Enseignement supérieur dès 2016. Le 23 mai, sept prix Nobel français et une médaille Fields signaient dans Le Monde une tribune dénonçant un suicide scientifique et industriel. Le 30 mai, François Hollande recevait les signataires à l'Élysée et annonçait le renoncement à l'annulation des 134 millions d'euros de crédits qui devaient affecter le CEA, le CNRS, l'INRIA et l'INRA. Cette brève et efficace fronde des chercheurs, qui rappelle celle beaucoup plus longue de 2003, démontre la fragilité du financement de la recherche en France. Or, ce domaine détermine le potentiel de découvertes scientifiques, d'inventions et d'innovations des décennies à venir. Ceci face à une concurrence qui ne cesse de croître en Asie, en particulier avec le Japon, la Corée et la Chine. Le potentiel de la recherche française affecte aussi directement les possibilités de carrière des jeunes chercheurs, mais également des jeunes ingénieurs qui auront besoin d'une industrie nationale pour exercer leurs talents en France. Pour toutes ces raisons, nous débattons aujourd'hui des perspectives de la relève des savoirs dans Sciences Publiques. Pour cela, nous recevons en direct depuis le studio 1 de la Maison de la Radio Mathieu Bionafine, doctorant de Sorbonne Université et premier prix du jury du concours « Ma thèse en 180 secondes ». Valentin Doyen, élève de Terminale S et gagnant des 7e Olympiades de sciences de l'ingénieur. Patrick Lemaire est directeur de recherche au CNRS, embryologiste moléculaire à Montpellier et porte-parole de Science en Marche, une association de défense et promotion de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et enfin, Cyril Rouillère est professeur de sciences de l'ingénieur au lycée de Corbeil-Essonne et forcément donc le professeur de Valentin Doyen. Les inondations qui touchent aujourd'hui fortement justement l'Essonne nous privent de la présence de Cyril Doyère et Valentin Doyen dans notre studio. Ils seront donc avec nous par téléphone. Patrick Lemaire sera quant à lui en duplex depuis Montpellier. Je vous rappelle que vous pouvez nous communiquer vos commentaires, vos réflexions sur le site de Sciences Publiques, tout en bas de la page de l'émission sur franceculture.fr. Mathieu Bonafine, bonjour.
Bonjour Michel.
Donc vous venez le 31 mai, donc il y a vraiment très peu de temps, de remporter la finale nationale du concours Ma thèse en 180 secondes qui s'est déroulée au Palais de la Bourse à Bordeaux. Nos auditeurs peuvent visionner la vidéo de votre présentation sur le site de l'émission. Ce que je voudrais savoir d'abord, c'est pour quelles raisons vous avez décidé de participer à ce concours?
Alors au départ, c'était vraiment un challenge, c'est-à-dire que la mission de ce concours, c'est de vulgariser notre sujet de thèse qui est évidemment très complexe, très pointu et très spécifique, donc en 3 minutes, ce qui est très peu. et en plus à un public qui n'a aucune base et aucune notion scientifique pour pouvoir le comprendre. Donc c'était un véritable challenge. C'est ça qui m'a donné envie de concourir, parce que c'était l'envie de relever ce challenge. Après, c'était aussi l'envie de pouvoir parler de ce que je fais, communiquer sur mon travail de thèse, pour sortir un peu de l'ombre et du milieu de la recherche qui est vraiment dans son coin. Je trouvais que le fait d'aller devant le public et de parler à tout le monde, c'était vraiment quelque chose de très intéressant.
Alors le défi tient dans le nom de votre thèse, dans le sujet de votre thèse, qui est l'étude du rôle de la neutrophile gélatinase associated, l'hypocalin, dans les effets cardiovasculaires de l'activation du récepteur minéralocorticoïde.
Tout à fait.
Donc voilà, transmettre ce sujet en 3 minutes de façon compréhensible par tout le monde, et c'est exactement le but de ce concours, ma thèse en 180 secondes, et que vous avez parfaitement réussi. Donc on le voit sur cette vidéo dont j'ai parlé et qui est sur notre site, et il y a un vrai travail d'élaboration d'un discours, d'une mise à niveau de ce sujet pour qu'il devienne comestible, j'allais dire.
Tout à fait. L'idée, c'était d'arriver à épurer le discours pour le rendre le plus simple possible, et arriver à se contenter de l'essentiel du message pour arriver à voilà, une structure vraiment, vraiment épurée qui puisse être comprise par tout le monde.
Voilà, alors ça passe par une vraie création, on va en reparler au cours de cette émission, une vraie création d'une petite histoire, de transposition vraiment du sujet pour le mettre à niveau. Alors, on va poursuivre notre premier tour de table. Patrick Lemaire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes associé à la réaction des prix Nobel français contre les réductions budgétaires dont j'ai parlé en introduction. Pour vous, ce concours Ma thèse en 80 secondes est-il un bon moyen de promouvoir la recherche française auprès du grand public et peut-être, on peut rêver, auprès du monde politique?
Alors oui, c'est un formidable moyen, et moi je suis toujours très heureux quand je regarde justement ces vidéos qui permettent de vraiment montrer l'enthousiasme que des jeunes peuvent avoir pour leur sujet, et le fait, comme le disait Mathieu, c'est un challenge. Donc les jeunes docteurs, ils ne reculent pas devant prendre des challenges. Et puis ce talent, simplement pour transmettre. Et cette transmission est crucial justement pour éviter ce type de coupe budgétaire, mais je pense qu'on reviendra là-dessus pendant l'émission.
Absolument, oui, c'est effectivement un des effets que l'on peut espérer d'une communication qui peut-être n'a pas toujours été la tradition dans le monde scientifique.
Non, et je pense qu'une des choses que Mathieu disait qui est très importante, c'est la recherche ne doit pas rester dans son coin. La recherche, elle a pour but d'irriguer l'ensemble de la société. Et on verra que la recherche sera correctement financée le jour où, effectivement, elle irriguera le monde politique, le monde économique, mais aussi le monde administratif. Et je pense que là, il y aura pas mal de choses à discuter ensemble.
Absolument. On va poursuivre avec Cyril Rouillère. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes donc avec nous par téléphone. Vous êtes une des victimes des inondations, puisqu'il était très difficile de nous rejoindre depuis votre établissement, le lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonne. Et vous faites partie de l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles, qui a été créée en 1982 et qui rassemble 700 professeurs de sciences de l'ingénieur dans 200 établissements en France et à l'étranger. Alors, pour quelles raisons avez-vous conduit vos élèves de terminale SI, alors vous préciserez peut-être ce que ça signifie, pourquoi les avez-vous conduits à participer aux 7e Olympiades des sciences de l'ingénieur organisées avec l'entreprise Schneider Electric?
Alors, les élèves sont en terminale S, comme vous l'avez dit, donc ici comme sciences de l'ingénieur, et pendant leur cursus, ils ont besoin de présenter un projet qui consiste à modéliser un système. Et on a la possibilité d'aller un peu plus loin et de concevoir entièrement, de partir d'une feuille blanche et de concevoir un système innovant et nouveau. Et donc cette année, on a décidé de se lancer avec 4 élèves de la classe pour participer à ce fameux concours des Olympiades des sciences de l'ingénieur. Alors, la motivation, elle vient simplement du fait que pour un enseignant, pouvoir partager une aventure avec ses élèves, c'est déjà la moitié de ces objectifs de rempli, puisque les élèves sont partie prenante, et ça permet au niveau de la pédagogie et de l'enseignement de faire que les choses vont toutes seules et que l'apprentissage se passe de manière très fluide, je dirais. Et ça permet aussi d'avoir une dynamique de groupe beaucoup plus importante au niveau de la classe.
Très bien. Et vous êtes justement avec Valentin Doyen, qui est l'un des quatre, ils sont quatre participants, quatre élèves de Terminale S, qui ont participé à ce projet d'un viseur pour arc, ce qui peut paraître étonnant, et puis surtout pas très simple à réaliser. Alors, Valentin Doyen, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à participer à ce concours des Olympiades de sciences de l'ingénieur?
Dans un premier temps, c'est d'abord notre professeur, Massiril, qui nous a présenté le projet, donc parce qu'on a un projet à présenter pour notre bac, comme il nous l'expliquait. Donc on a vu ça, on a tout de suite été enthousiastes, parce qu'on s'est dit que on aurait la chance d'aller peut-être un peu plus loin que nos camarades, de concevoir le système, de le réaliser, trouver les solutions nécessaires pour qu'il fonctionne bien, puis d'avoir un aperçu, si on veut, d'un objet qu'on réalise nous-mêmes, une création, une véritable innovation faite par nos propres mains.
Alors je crois que ce projet, il est né aussi d'un rapprochement avec un club d'archers, une compagnie d'archers même, de Saint-Vrain, c'est ça?
C'est ça.
Et donc, parce que c'est pas forcément évident d'imaginer un système de visée pour arc qui permettrait, donc c'était le but de votre projet, aux archers débutants de trouver la meilleure position pour atteindre la cible. Mais ce qui, rien qu'en disant les choses comme ça, on se rend compte de la difficulté. C'est quand même, il y a beaucoup de capteurs, il y a beaucoup de mesures nécessaires pour arriver à un tel résultat.
Oui, c'est vrai, mais justement, avec ces archers, ça nous a permis de mettre en place notre cahier des charges pour voir ce qui serait nécessaire, ce qui était moins, pour voir ce qu'on a besoin de mesurer, de prendre en compte, ce qui compte moins. Donc, ils nous ont justement aidé beaucoup à déterminer les paramètres qui vont jouer, notamment dans notre système.
Alors là, on voit, Mathieu Bonafine, deux niveaux très différents. Le vôtre, celui du doctorat, où là, vous allez nous expliquer d'ailleurs justement le sujet de votre thèse, plus en détail, où on est dans des problématiques beaucoup plus en amont de l'application définitive, bien que vous imaginiez déjà pouvoir arriver à un médicament, peut-être, pour exploiter vos résultats. Alors, en deux mots, là, je vais vous faire un autre concours, au lieu de 180 secondes, on va dire, je sais pas, en 30 secondes, comment expliquer le sujet de votre thèse?
Moi, ce sur quoi je travaille, c'est de comprendre le rôle et l'implication d'une molécule qu'on pense être impliquée dans les maladies cardiovasculaires. Donc ce que je fais concrètement, c'est d'explorer et d'étudier cette molécule et d'essayer de déterminer où est-ce qu'elle joue, comment elle marche, à quoi elle sert, et si on l'inactive, est-ce que ça permet d'aller mieux? Donc, de éventuellement aboutir à un médicament.
Voilà, vous n'êtes pas dans la théorie pure, puisque vous travaillez sur des souris qui ont justement ont été privées de cette molécule.
Tout à fait.
Et vous essayez de voir si justement...
si elles vont mieux.
Si elles vont mieux et si elles supportent mieux le vieillissement, j'imagine, ou...
Si elles supportent mieux les maladies cardiovasculaires.
Voilà, si elles sont moins affectées par les maladies cardiovasculaires. Donc, une thèse comme ça, c'est 3 ans de travail. Comment c'est né? Comment vous êtes arrivé à cette étape-là dans votre cursus?
Alors, comme toutes les thèses en sciences, et notamment en biologie, ça prend toujours sa place dans une recherche qui est menée par le laboratoire. Donc, mon sujet vient suivre le sujet du thésard précédent. Donc c'est ça la recherche, c'est-à-dire on cherche, on trouve des choses, et chaque question à laquelle on répond pose une nouvelle question. Et donc c'est venu comme la suite de la découverte en fait de cette molécule qu'on a pu déterminer comme étant impliquée. Donc maintenant il fallait déterminer à quoi elle servait.
Voilà, et donc votre travail, lui, peut être l'étape qui conduit à, finalement, une vérification de certaines hypothèses qui sont, par exemple, l'implication de cette molécule dans les maladies cardiovasculaires, et donc peut-être des médicaments qui pourraient supprimer de l'organisme pour éviter que ces maladies se produisent.
Alors, le développement de médicaments, c'est quelque chose de très complexe, de très long, donc c'est pas un des objectifs directs de ma thèse. C'est un objectif à long terme si il s'avère que créer des médicaments contre cette molécule serait vraiment très intéressant. Moi, à mon échelle et pour le moment, l'idée, c'est vraiment d'arriver à déterminer tous les paramètres intéressants qui concernent cette molécule pour savoir si ça peut être une cible thérapeutique vraiment importante et intéressante.
Alors Cyril Rouillère, peut-être en jouant au parallèle entre ces deux projets, comment choisir un projet qui soit adapté à des élèves de terminale S, celui dont on parle avec Valentin Doyen est quand même très ambitieux, un système de visée avec des capteurs laser, etc., qui détermine la meilleure position pour un archer avant qu'il tire sa flèche. Est-ce que vous avez déjà comment évaluer la difficulté et choisir un sujet qui soit à la portée finalement d'élèves de terminale S?
Alors justement le projet, comme je vous ai dit, il fait partie intégrante du programme et ils vont être évalués dessus. Donc on fait en sorte de choisir un projet qui est réalisable et qui ne devienne pas un projet de prof, parce que si les élèves ne peuvent pas maîtriser ou utiliser les outils mathématiques ou physiques, ça ne sert à rien. Donc on a fait avec les collègues tout un travail en amont pour voir si le projet pouvait aboutir en fonction des connaissances que les élèves allaient acquérir tout au long de l'année. Donc c'est tout un défi, parce qu'après il y a des problèmes techniques, parce qu'évidemment comme c'est nouveau, c'est innovant, on découvre aussi en même temps qu'eux. Mais il y a tout un travail quand même qui est en amont, qui est fait, qui permet de servir de sécuriser le projet pour pas que les élèves soient pénalisés si par malchance ils pouvaient pas arriver au bout. Et aussi on a aussi fait dans les critères d'évaluation et puis aussi dans la précision du système, puisque là c'est un système de visée, on a fait aussi en sorte que le système ne soit pas trop précis, parce qu'à un moment ça devient plus réalisable. Donc c'est par rapport à ça qu'on a pu faire en sorte que les élèves puissent se débrouiller tout seuls pour mener à bien ce projet.
Valentin Doyen, justement, comment vous avez vécu ce projet qui a duré combien de temps? C'est juste sur l'année scolaire de la terminale que vous avez mené à bien la réalisation, parce que là, c'est plus qu'un simple projet, c'est la réalisation d'un prototype et même de deux prototypes, si j'ai bien compris.
Oui, c'est ça, deux prototypes. On a réussi ensuite à optimiser le premier. Donc ce projet, ça a duré 7 mois en tout, parce qu'on a commencé fin octobre, début novembre. On a commencé à en parler, à voir tout ce qu'on pourrait faire. Il nous a fallu quand même 2 bons mois de travail avant de pouvoir commencer réellement à attaquer dans le dur. Mais nous avons finalement réussi, parce qu'on a eu tout un tas de partenaires qui nous ont aidés tout le long, notamment l'UTEC, que je remercie s'ils nous entendent. Qui nous a prêté ses locaux et son matériel pour pouvoir justement réaliser nos mesures. Puis c'est quelque chose qui nous a vachement rapprochés entre nous aussi. On était des connaissances, et au fur et à mesure de l'année que le projet avançait, on s'est rapprochés de nos professeurs aussi. Aujourd'hui, c'est presque comme des tontons pour nous. Donc c'est vraiment quelque chose de génial.
France Culture, Sciences Publiques. Michel Albert-Gonti.
Je vous rappelle que nous débattons aujourd'hui de la question « Relève des savoirs, la recherche française peut-elle séduire les jeunes ?» avec nos invités Mathieu Bonafine, premier prix du jury du concours « Ma thèse en 180 secondes », Valentin Doyen, élève de terminale S, gagnant des 7e Olympiades de sciences de l'ingénieur, Patrick Lemaire, directeur de recherche au CNRS et porte-parole de Sciences en Marche, et Cyril Rouillère, professeur de sciences de l'ingénieur au lycée Corbeil-Essonne, le lycée Robert Doisneau. Peut-être, Patrick Lemaire, un premier commentaire sur ce que nos jeunes, à la fois étudiants et élèves de terminale, nous ont raconté sur leur démarche en matière de thèse ou de projet de terminale.
Ouais, la démarche des deux côtés est extrêmement intéressante et elle illustre très bien la complémentarité des métiers de l'ingénieur et des métiers des chercheurs. C'est-à-dire d'un côté, ce que l'on voit, c'est au niveau des ingénieurs, c'est essentiellement de prendre des solutions qui sont sophistiquées, mais qui sont connues, et de les combiner ensemble de telle manière à avoir un produit qui va remplir un certain cahier des charges. De l'autre côté, on a un docteur, et le docteur, lui, ce qu'il va faire, c'est explorer des sujets pour lesquels on n'a pas de solution connue. Et on voit tout de suite que ces deux approches sont extrêmement complémentaires. Très souvent, on entend une opposition entre, d'un côté, les grandes écoles, et puis de l'autre, les docteurs. Je pense que les deux intervenants-là montrent très bien qu'il ne faut pas voir une opposition dans ces deux métiers, mais une complémentarité. Et je dirais que les docteurs savent disséquer un problème complexe. On est dans une société de plus en plus complexe. Cette capacité à créer, à comprendre ce qui est en train de se passer, est vraiment fondamentale et peut tout à fait être utilisée également dans un gouvernement ou dans une entreprise. Si je peux dire un dernier mot sur ce sujet, c'est que si on regarde la représentation, que ce soit des docteurs ou que ce soit des ingénieurs, dans le monde politique, et notamment à l'Assemblée ou au gouvernement, dans les deux cas, ces deux catégories sont totalement sous-représentées. Et c'est peut-être une source de problèmes dans notre société.
Mathieu Bonafine, peut-être sur cette complémentarité, est-ce que c'est une question que vous vous posez, de savoir comment articuler ces deux voies? On a un peu l'impression souvent que les docteurs, c'est les laboratoires de recherche, le CNRS, c'est l'université, et forcément un peu éloigné des applications. Est-ce que ce sentiment, vous l'avez aussi ou pas ?
Le sentiment que les docteurs ne sont pas très reconnus sur le marché du travail et dans l'industrie notamment, c'est évident. Je pense que les choses sont peut-être en train de changer, en tout cas, je l'espère. Je pense que, effectivement, par rapport à cette complémentarité dont vous parliez, c'est vrai que les docteurs et les doctorants qui ont fait de la recherche ont cet esprit finalement de un peu ouvert qui consiste à dire bon, il y a des choses qu'on sait pas et on va essayer d'inventer. Donc il y a peut-être quelque chose d'imaginatif chez ces docteurs qui, je pense, serait vraiment un atout que la société devrait exploiter.
Dans justement en dehors des murs de la recherche.
En dehors des murs de la recherche, bien évidemment.
Classique, ou du moins de la recherche publique. Est-ce que, Cyril Rouillère, vous, quelle perception vous avez des docteurs? On va faire là un petit peu de comparaison des images que chacun peut avoir de l'autre monde, même si cette complémentarité, on va y revenir, dont parlait tout à l'heure Patrick Lemaire, s'impose par sa logique, mais on a l'impression qu'elle a du mal à exister dans la réalité. Comment vous la ressentez, Cyril Rouillère?
Non, déjà nous, on enseigne à des élèves de terminale qui seront peut-être docteurs ou ingénieurs. En fait, à ce niveau-là, ils ont souvent pas encore trop d'idées. Ils vont faire une prépa pour des grandes écoles, ou alors certains vont intégrer les bancs de l'université. Donc, dans ma classe, je suis certain qu'il y en a qui vont sans doute faire de la recherche fondamentale. Il y en a qui vont devenir ingénieurs, etc.
Après, même dans la section sciences de l'ingénieur, vous pensez qu'il y en a qui vont se diriger vers l'université?
Tout à fait, parce que pour faire de la physique fondamentale ou des choses comme ça, c'est la voie, c'est le bac S. Hein. Donc ils ont des spécialités en mathématiques, en physique, chimie, et donc voilà, c'est un bac S comme un autre. Donc pour faire de la recherche fondamentale, c'est je dirais la voie royale, c'est tout à fait logique de faire ce type de baccalauréat. Donc après, vous me demandez mon avis sur comment je vois un chercheur. Bah, c'est sûr qu'on imagine toujours le chercheur qui fait la recherche fondamentale, pas forcément très appliqué, mais à tort, parce que finalement, comme vous disiez tout à l'heure, les deux mondes sont entièrement complémentaires, puisque le chercheur, pour mener à bien ses recherches, il a besoin de l'ingénieur pour mettre au point les systèmes de détection, les capteurs, etc. Donc, en fait, les élèves, bien sûr, à leur niveau, ils ont encore du mal à faire la distinction entre ces deux mondes, mais ça va se constituer petit à petit. Et là, justement, comme disait Valentin tout à l'heure, la richesse de notre projet, c'est qu'ils ont pu côtoyer le monde industriel. Alors, on n'a pas côtoyé le monde de la recherche, mais déjà, le monde industriel, ils ont mis un pas dedans, ils ont été à l'UTAC, ils ont vu comment ça se passait, ils ont vu ce que c'était qu'un cahier des charges, ils ont vu qu'il fallait être précis dans ce qu'on demandait, il fallait être rigoureux. Donc, il y a tout un apprentissage qu'ils ont eu à travers ce partenariat que nous, en tant qu'enseignants, on n'aurait peut-être pas pu leur faire passer comme ça.
Vous parlez de l'UTAC, peut-être qu'il faut préciser.
C'est l'Union des transporteurs automobiles et du cycle. C'est un organisme qui fait des essais sur tous les systèmes mobiles. Par exemple, qui valide pour les crash tests automobiles, qui fait des tests des casques, des choses comme ça.
Très bien.
Je suis réducteur, hein, parce qu'ils vont m'en vouloir, je suis un peu réducteur. Mais voilà, c'est un organisme qui vérifie toutes les normes.
Très bien. Valentin Doyen, vous, en tant que donc cet élève de Terminal S qui vient de gagner ce concours, comment vous voyez votre avenir et peut-être votre orientation qui ne va pas tarder, puisqu'il va falloir choisir entre les classes préparatoires, en gros, et puis l'université?
Mon avenir, je pense que je serai dans la recherche ou dans l'ingénierie. C'est quelque chose qui m'intéresse. Mais le domaine de prédilection, je ne l'ai pas encore. Peut-être de la physique fondamentale, je ne sais pas. L'année prochaine, parcours plutôt classique, hein, la prépa, en essayant de réussir au mieux, puis en croisant les doigts pour les concours à la clé.
Alors voilà, en fait, le cas Patrick Lemaire, où la voie royale, c'est quand même les classes préparatoires.
Pour de nombreux lycéens brillants, effectivement, ils considèrent que les classes préparatoires sont la voie royale. On peut pas totalement leur en vouloir si on considère l'argent investi par l'État dans un étudiant qui va être en classe préparatoire et dans un étudiant qui va être en premier cycle universitaire. Je crois que le rapport, c'est à peu près de 1 à 2, enfin de 2 à 1 en l'occurrence. Donc, quelque part, actuellement, il y a un problème dans les premiers cycles universitaires, mais ce problème, il est dû à un sous-financement chronique. Si vous voulez, l'État français investit à peu près 6 000 € par étudiant et par an, hors aide sociale. Si vous allez dans une université comme l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, c'est près de 50 000 € qui sont investis. Donc on voit tout de suite qu'il y a presque un différentiel de 1 à 10 dans ce qu'investit l'État dans des études universitaires par rapport à ce qui peut être fait à l'étranger. Donc oui, actuellement, dans l'État actuel, c'est vrai que les meilleurs étudiants dans les lycées vont vers les classes préparatoires. Ceci dit, c'est pas tout à fait vrai. Il y en a certains qui décident, parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans des cursus très compétitifs, parce qu'ils ont peut-être plus envie de prendre du temps pour réfléchir à ce qu'ils veulent faire, qu'ils vont à l'université.
Mathieu Bonafine, comment s'est passé ce choix, cette orientation à la fin de la terminale pour vous ?
Moi, ça a plutôt été comme je ne savais pas exactement ce que je voulais faire et que je me cherchais encore un peu à l'époque, c'est vrai que la voie universitaire était plus adaptée pour moi. Mais pour rebondir à ce qui vient d'être dit, je pense que Les deux parcours sont pas forcément si cloisonnés que ça, parce qu'on voit des gens qui viennent des grandes écoles qui vont faire des thèses ensuite. On voit des gens qui commencent à l'université et qui rejoignent les grandes écoles ensuite. Donc il y a de toute façon une connexion entre ces deux organismes. Et je pense que si tous les lycéens veulent en priorité aller faire ces grandes écoles, c'est parce qu'il y a un besoin, une envie de se démarquer, de se sélectionner finalement pour avoir une valorisation plus importante d'un diplôme qu'on cherche absolument.
Valentin Doyen, c'est ça la motivation? Pourquoi quand même privilégier les classes prépa à la suite de votre bac?
Les classes prépa, c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est un peu la voie royale, ce qui est connu pour être justement très bon et faire réussir les élèves. Puis c'est ce que souvent les profs nous encouragent à faire lorsqu'on a le niveau. C'est vrai qu'ils nous encouragent beaucoup plus à aller en classe préparatoire qu'en université. C'est forcément un choix qui influe sur les élèves.
Alors, est-ce que c'est juste une question de filière et de moyens, comme Patrick Lemaire le remarquait, de différence de moyens ou d'investissement dans les cursus des élèves entre l'université et les classes préparatoires? Ou bien est-ce que c'est lié aussi aux perspectives que l'on peut imaginer à ce stade-là avec l'université ou avec les les écoles d'ingénieurs, Patrick Lemaire, peut-être qu'il n'y a pas que l'aspect financier qui entre en jeu.
Non, il n'y a pas que l'aspect financier, il y a l'aspect des débouchés. Alors, les débouchés, il faut voir quand même qu'à l'université, il y a un grand nombre de formations qui sont très cotées. Il y a des licences professionnelles qui vont... Donc, l'université est également capable de délivrer des diplômes qui ont une valeur immédiate pour les entreprises. Maintenant, le diplôme, je dirais, roi de l'université, ça reste le doctorat. Et le doctorat, il y a vraiment un problème dans notre pays par rapport à d'autres pays. Si je prends simplement l'exemple du gouvernement allemand. Le gouvernement allemand, il y a 16 ministres. Sur ces 16 ministres, 7 ont un doctorat, dont la chancelière, qui a un doctorat en physico-chimie, et il y a un médecin. Si maintenant on prend en France, on a un docteur en droit, qui est Jean-Jacques Urvoas à la justice, et puis on a 2 secrétaires d'État sur 20, donc il y a 18 ministres, on a 2 secrétaires d'État sur 20 qui ont un doctorat, et puis 2 qui sont des médecins. Donc on voit tout de suite que le diplôme de doctorat est un diplôme roi en Allemagne. C'est vrai dans la fonction publique également. Alors qu'en France, il semble être cantonné au monde de la recherche. Et cette étanchéité entre ce monde de la recherche, avec son diplôme roi, le doctorat, et le monde économique, administratif ou politique, pose vraiment un problème très important pour les jeunes docteurs, bien sûr, mais également pour la société. Il faut bien voir que, quelque part, les docteurs, par la formation à explorer, à disséquer un problème complexe, peuvent agir un petit peu comme des chiens d'aveugle pour des politiques. C'est-à-dire, on n'est pas là pour prendre des décisions, mais par contre, on est là pour aider à anticiper le futur, à tester tous les scénarios possibles. Alors, je peux vous donner 3 exemples. Un que tout le monde connaît, c'est le GIEC. Donc, le GIEC, ce sont des chercheurs, donc c'est le Groupement International de l'Étude du Climat. Donc, ce sont les gens qui ont sonné l'alarme avec le changement climatique. Eh bien, c'est important parce qu'ils ont pu modéliser les conséquences du changement climatique sur nos comportements. On peut en citer 2 autres qui vont venir. L'une, c'est les imprimantes 3D. Les imprimantes 3D, il va falloir qu'il y ait une réflexion scientifique importante de sciences humaines sur comment ça va révolutionner l'industrie manufacturière. On entend rarement les politiques parler de ça. C'est trop long. C'est trop loin pour eux. On entend parler des véhicules autonomes également. Pareil, les véhicules autonomes, on a une crise entre les taxis et les VTC actuellement. Si les véhicules deviennent autonomes à un horizon de 15 ans, eh ben, le problème entre les taxis et les VTC ne se posera plus parce que les deux seront obsolètes. Le rôle des chercheurs, c'est d'anticiper ce qui va se passer pour qu'à la place d'avoir des crises, on ait des transitions progressives.
Mathieu Bonafini,
c'est les docteurs.
Mathieu Bonafini, est-ce que vous avez le sentiment de cette mission dont parle Patrick Lemaire ?
À mon échelle de thésard, je peux
pas encore.
Pas encore. Je pense que ce que Patrick Lemaire vient de dire, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire que avoir des vrais spécialistes sur des sujets, c'est important, puisque quand ce sujet vient à être important, bah, il faut avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle. Je pense notamment à des spécialistes de la crue, là, qui le problème qui se pose aujourd'hui en France et à Paris. Si on n'avait pas des gens qui travaillent sur des modèles prédictifs, sur des systèmes de gestion du problème quand il se pose, on serait bien embêté. Et ces gens-là, c'est des universitaires, c'est des gens de la recherche, c'est des docteurs. Donc je suis tout à fait d'accord avec Patrick Lemaire. Je ne peux pas prétendre que moi, à mon échelle, je me pose comme le garant d'une imagination du futur. Après, là où je le rejoins, c'est que je pense que cette capacité, parce qu'on est formé comme ça et que c'est notre travail, donc c'est un peu le moule dans lequel on est coulé, de vraiment avoir un regard critique, avoir un regard d'analyse, c'est quelque chose qui finalement donne juste un regard différent, une lumière différente par rapport à ce que peuvent être moulés à faire les hommes politiques, les ingénieurs qui sortent des écoles d'ingénieurs. Et je pense que c'est dommage que la société se prive de ce regard différent, parce que chaque regard différent est une possibilité différente de gérer le problème.
Mais vous avez l'impression que la société s'en prive?
Je pense vraiment que la société s'en prive, oui. C'est ce que Patrick Lemaire vient de dire avec ses chiffres dans les gouvernements. Il y a vraiment une sous-représentation de docteurs, et c'est vrai aussi dans l'industrie où on voit que pour un même poste dans une entreprise, un ingénieur va souvent être préféré à un docteur pour des raisons finalement assez obscures, puisque c'est pas du tout quelque chose qui est représenté dans le reste du monde, où le titre de docteur et le doctorat en tant que diplôme est vraiment très valorisé. Il n'y a qu'en France, enfin je ne sais pas s'il n'y a qu'en France, mais en tout cas en France, il y a une sorte de paradoxe avec ce diplôme.
Oui, même en Italie ou dans d'autres pays, effectivement ce diplôme est plus valorisé. Mais est-ce que cette complémentarité, pour revenir au terme que Patrick Lemaire a utilisé en début d'émission, est-ce que cette complémentarité ne reste pas quand même largement... théorique, est-ce que les deux voies, là, parce que là on parle de cet embranchement important à la fin de la terminale, où il faut choisir entre l'université et les grandes écoles, même s'il y a des ponts qui existent, mais qui sont quand même des petits ponts entre les deux grandes voies, est-ce qu'il n'y a pas un manque déjà à ce stade-là de communication? On voit que ces grandes écoles sont quand même une spécificité française, et comme par hasard, leur existence se produit en même temps que cette sous-valorisation des docteurs. Alors la question, est-ce qu'il y a un lien entre l'importance des grandes écoles en France et les difficultés que rencontrent les doctorants à trouver leur place dans la société française, Patrick Lemaire?
Alors sans aucun doute, il y a un lien entre les deux. Le fait d'avoir un système dual d'enseignement supérieur où, quelque part, dès le lycée, les professeurs vont avoir tendance à orienter leurs élèves en leur disant « bah si vous allez en classe préparatoire, vous avez de meilleures chances d'avoir un bon travail après », nécessairement, ça a un impact. Maintenant, il faut voir également que quand on parle de grandes écoles, ça couvre des choses très diverses. Déjà, il y a des grandes écoles très prestigieuses, des grandes écoles qui sont plus petites. Ensuite, il y a des grandes écoles d'ingénieurs, il y a des grandes écoles de commerce, il y a des grandes écoles d'administration comme l'ENA. Et ce n'est pas forcément les mêmes populations. Actuellement, je pense qu'il y a également un petit peu une crise au niveau des écoles d'ingénieurs. Si on regarde, quand on fait une prépa ingénieur, on peut également, si je ne me trompe pas, passer des concours d'école de commerce. Et il y a une tendance à la managérialisation de la société via des écoles de commerce, via des écoles d'administration. Donc, quelque part, faut pas mettre tout dans le même panier. Après, je pense qu'au niveau des ingénieurs, de plus en plus d'ingénieurs réalisent que s'ils veulent avoir une carrière à l'international, où la référence, c'est le doctorat, c'est pas une école d'ingénieurs française, eh bien, il faut qu'ils fassent un doctorat après. Et je pense que c'est vers ça qu'il faut tendre. Il faut que la majorité des ingénieurs comprennent qu'un doctorat sera un plus dans leur parcours. Alors, peut-être pas immédiat, mais à un horizon de 5-10 ans, avec l'internationalisation des cursus qui se poursuit.
Donc là, ça serait le retour vers l'université, mais après une école d'ingénieur. Cyril Rouillère, est-ce qu'il est vrai que vous privilégiez quand même les préparations aux grandes écoles dans les conseils que vous pouvez donner à vos élèves?
Non, quand même pas, faut pas. Non.
Ah, ça a été dit, donc.
Oui, justement, mais je laisse venir. Non, mais en fait, nous, on se retrouve confrontés avec les élèves qui sont en terminale. Et comme l'a dit Valentin tout à l'heure, en fait, ils savent pas bien ce qu'ils veulent faire. Alors, souvent, on est confronté à ça. Il y a 80% des élèves qui savent pas. Donc, ils savent, en gros, qu'ils veulent se tourner vers l'industriel ou vers de la chimie ou vers de la... Mais globalement, on se trouve démunis devant eux parce qu'ils savent pas quoi faire. Alors c'est vrai que souvent, on a tendance à leur dire, toi tu sais pas encore quoi faire, donc tu vas te laisser encore le temps de réfléchir en faisant une prépa plutôt généraliste. Donc tu vas affiner tes connaissances en mathématiques, en physique, en sciences, et puis ça va te laisser peut-être le temps de voir un petit peu quelles sont les appétences pour ton futur métier. Après, en université, c'est vrai qu'il y a rarement de demandes. Il y a rarement de demandes directes pour rentrer en université. Alors, comment ça s'explique? C'est vrai qu'il y a des moyens aussi qui sont au niveau de la communication, qui sont sans doute pas au niveau sur les universités, parce que nous, on reçoit des publicités pour les écoles d'ingénieurs, mais c'est vrai que des publicités des universités, on en reçoit beaucoup plus rarement. Et il y a aussi, dans l'opinion que se fait l'opinion publique, quand on dit ingénieur, tous les gens s'imaginent ce que c'est que le métier d'ingénieur, etc. Ils voient ça d'une façon concrète. Tandis que quand on leur parle d'un chercheur ou d'un cursus universitaire, c'est peut-être un peu plus flou. Donc nous, bien sûr, on explique, et non, faut pas, on n'est pas juste des pro-prépa ou des anti-fac. Hein. Nous, on est souvent les enseignants, on est issus de la fac, hein, donc on va pas dénigrer ce qui nous a formés. Mais on essaye de répondre à la demande expresse de l'élève et de l'orienter à court terme, on va dire. On a du mal à dire à un élève va à la fac pour faire une licence quelconque, alors que l'élève nous dit je sais vraiment pas quoi faire. Donc c'est vrai que l'orienter vers une prépa. Alors après, tous les élèves ne vont pas en prépa. Hein. Il faut bien être clair là-dessus. Mais voilà, on est confronté à cette incertitude. Qu'on les élève à ce niveau de leur carrière.
France Culture, Sciences Publiques, Michel Albergonti.
Nous débattons aujourd'hui la question relève des savoirs. La recherche française peut-elle séduire les jeunes? Avec nos invités, Mathieu Bonafine, premier prix du jury du concours Ma thèse en 180 secondes, Valentin Doyen, élève de Terminale S, gagnant des 7e Olympiades de sciences de l'ingénieur, Patrick Lemaire, directeur de recherche au CNRS et porte-parole de Sciences en Marche, et Cyril Rouillère, professeur de sciences de l'ingénieur au lycée Robert Doisneau de Corbeil-Essonne. Alors peut-être pas mal de commentaires à faire, Patrick Lemaire, sur ces différents points que vient d'aborder Cyril Rouillère concernant l'image que finalement a l'université quand on est face à des élèves de terminale qu'il faut un peu conseiller, orienter.
Il faut peut-être élargir le débat. Le problème n'est pas uniquement les élèves de terminale, je dirais, c'est le regard de la société en général.
Oui, mais qui se traduit par ce... Il est lié.
Qui se traduit. Mais si vous... si les entreprises... alors, je ferai après un plaidoyer pour la recherche fondamentale, mais j'aimerais d'abord parler des entreprises. Il y a vraiment un blocage des entreprises au niveau des docteurs. Et ce blocage, on le voit parce que vous avez sans doute entendu parler du crédit d'impôt recherche que touchent les entreprises. Ce crédit d'impôt recherche, c'est 6 milliards d'euros par an. Donc c'est une quantité énorme. Dans ce crédit d'impôt recherche, il y a un volet extrêmement généreux pour embaucher des docteurs. C'est-à-dire que l'entreprise, on lui rembourse plus que le salaire payé qu'elle paie au docteur en crédit d'impôt. Néanmoins, il y a moins d'1% du crédit d'impôt recherche qui est utilisé par les entreprises et il y a à peu près entre 1 000 et 1 500 docteurs seulement sur 12 000 formés tous les ans qui vont être embauchés. Ça illustre très bien la distance entre le monde de l'entreprise et le monde académique. Cette distance, on la voit aussi dans le très peu de contact entre l'industrie et le monde académique. Je pense que si ces deux mondes réussissaient à être beaucoup plus proches, si l'industrie jouait le jeu, à ce moment-là, l'image de l'université serait très différente également. Et de ce fait, eh bien, on aurait des élèves de terminale qui seraient beaucoup plus tentés d'aller vers l'université. Ceci dit, à l'université, il y a quand même des filières, que ce soit des IUT, que ce soit des licences professionnelles, que ce soit un grand nombre de masters qui sont attractifs et qui offrent des carrières tout à fait attrayantes, avec un taux de chômage faible.
Alors peut-être quand on fait un doctorat, c'est le moment de se poser cette question, Mathieu Bonafine. Est-ce que vous êtes en relation avec des entreprises déjà au cours, pendant votre cursus?
Pas vraiment. Dans le cadre de ma thèse, j'ai un petit contact avec des entreprises qui sont partenaires en fait de mon travail de thèse, mais ça s'arrête au contact purement professionnel de la collaboration. Après, j'ai pas de contact particulier avec une industrie qui m'épaulerait dans mon travail de thèse. Je sais que c'est quand même quelque chose qui se fait, puisqu'on a des bourses de thèse qui s'appellent CIFRE, qui sont en fait des bourses de thèse financées par l'industrie pour des doctorants qui travaillent dans des laboratoires de recherche publique, mais au service avec une sorte de partenariat public et industrie. Ça existe.
Alors, on a parlé beaucoup de cet embranchement de la terminale, mais vous êtes au bord d'un autre embranchement dans votre carrière, avec votre doctorat. Qu'allez-vous faire?
La question reste ouverte. Dans mon cas, précisément, j'ai un volet un peu spécifique, puisque au cours de ma thèse, je suis en parallèle à un MBA dans une école à Paris, qui va me donner l'opportunité d'aller effectuer une mission dans une industrie au sortir de ma thèse, et qui va donc me permettre d'avoir comme ça un double diplôme et donc une double compétence au sortir de ma thèse. Mais c'est mon cas très spécifiquement. Pour moi, la suite est pas du tout écrite. Je ne sais pas si mon expérience dans l'industrie me plaira plus que mon expérience dans la recherche. La question reste complètement ouverte. Après, je sais que un doctorant aujourd'hui se pose vraiment la question de manière complètement complètement ouverte.
Donc c'est intéressant. Pourquoi avoir fait un MBA, donc un master
of business administration, c'est un diplôme de management dans mon cas.
Ça n'a strictement rien à voir donc avec ça la recherche et la biologie.
Moi, pourquoi je l'ai fait? D'une part parce que je trouvais ça intéressant d'aller voir d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir avec les sciences. Donc parce que c'est un diplôme qui forme à la finance, à la gestion, ce genre de choses, qui sont a priori complètement, qui sont très très loin de ce que je fais au quotidien.
Et puis quand même qui sont orientés entreprise.
Qui sont orientés entreprise, mais finalement pas forcément tant que ça, parce que je pense qu'un problème aujourd'hui, c'est qu'on a d'un côté l'industrie qui voit la recherche fondamentale comme quelque chose de très obscur, qui ne sert à rien, qui est peut-être un gâchis de moyens et de temps et de gens, et de l'autre côté, une recherche fondamentale qui se promeut et qui se veut être le socle du savoir et qui regarde l'industrie d'un mauvais œil. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin justement de plus de communication et de plus de partenariat entre ces deux mondes. Et je pense que justement, avoir cette double casquette, avoir un pied dans l'industrie, un pied dans la recherche, c'est aussi être capable de connaître ces deux mondes et donc peut-être de les amener à communiquer ensemble.
Patrick Lemaire, c'est intéressant parce que vous parliez tout à l'heure de ces possibilités après pour les écoles de certains diplômés d'écoles d'ingénieurs qui vont faire un doctorat parce qu'ils se sont rendus compte que cette dimension était intéressante, en particulier à l'étranger. Et là, on voit donc un doctorant qui lui pense à faire une autre spécialité avec un MBA qui pour se rapprocher de l'industrie. Donc, il semblerait que peut-être les filières, chacune des filières ne permet pas trop d'établir cette complémentarité, mais qu'il faut mélanger un peu les différentes filières pour y arriver.
Oui, et je trouve que ce que dit Mathieu est tout à fait intéressant, et le cursus qu'il prend est tout à fait intéressant. En gros, plus on aura de docteurs dans la société, quel que soit ce qu'ils ont fait par ailleurs, plus on va avoir une irrigation de la société par les méthodes et la démarche scientifique. Et c'est ça qui, au final, est crucial. Après, il faut voir, la France forme 12 000 docteurs par an. Alors, 12 000 docteurs, on peut se dire, ça fait beaucoup. En fait, c'est la moitié du nombre de docteurs formés en Allemagne. Alors, on peut se demander ce que deviennent ces docteurs. Alors, il y a à peu près 3000 recrutements de maîtres de conférences et de professeurs. Donc ça, c'est le débouché principal des docteurs dans le monde académique. Il y a 500 à 1000 chercheurs et ingénieurs de recherche dans les organismes, tous les ans. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 8000 docteurs, de toute façon, qui actuellement sont sur le marché du travail.
Et c'est absolument considérable, il faut quand même le souligner.
Attendez, parce que sur ces 8000 docteurs, actuellement, on a un problème d'encadrement des étudiants. Donc, probablement, et de chercheurs d'effectifs des organismes de recherche en baisse légère. Donc, ce que demandent les chercheurs, c'est qu'il y ait peut-être 1000 ou 1500 postes dans la recherche et dans l'enseignement supérieur public qui soient créés tous les ans. Mais il reste encore 6500 docteurs. Ces 6500 docteurs, il faut qu'ils arrivent dans des positions de responsabilité, parce que c'est comme ça qu'ils réussiront à avoir un impact sur la manière dont on pense les problèmes de société. Si c'est en passant par des MBA après, eh ben tant mieux.
Ça veut dire qu'on a donc plus de la moitié des chercheurs que l'on forme chaque année en France qui, en fait, ne trouvent pas facilement leur place dans la société. Déjà pas dans la voie traditionnelle des docteurs, qui est celle de la recherche de l'enseignement, et qui se retrouvent un peu sur le carreau, il faut le dire.
Alors, ils ne se retrouvent pas tous sur le carreau, il ne faut pas non plus.
Pas tous, mais enfin, ça fait quand même une grosse proportion qui risque de l'être.
Néanmoins, si on regarde, le taux de chômage chez les jeunes docteurs est 3 fois plus élevé en France que dans les autres pays autour de nous. Donc effectivement, il y a un réel problème. Et ce réel problème, c'est vraiment un problème d'incompréhension entre la société et ses docteurs. C'est peut-être aussi un problème de reproduction un petit peu sociale. C'est-à-dire qu'on va trouver des gens qui ont d'autres formations en position de recruter, que ce soit dans la haute fonction publique ou que ce soit dans les entreprises, et qui vont donc privilégier des gens dont ils connaissent le profil. Si on regarde les docteurs qui sont embauchés dans les entreprises avec le crédit impôt recherche, eh bien, on s'aperçoit que c'est surtout des docteurs ingénieurs. C'est-à-dire des gens qui sont également ingénieurs, donc qui quelque part se... Mais dans 10 ans, ceux-là, ils seront rentrés dans une entreprise, ils auront eu une expérience de recherche. La plupart des dirigeants chez nous, industriels, administratifs ou politiques, n'ont aucune expérience de recherche. Ils ne savent pas ce que c'est qu'explorer un problème, disséquer un problème. Pas mal de problèmes de notre société viennent peut-être de là, d'ailleurs.
Cyril Rouillère, est-ce que ce que nous dit Patrick Lemaire sur les débouchés des chercheurs ou des doctorants plutôt, est-ce que finalement ça ne plaide pas justement en faveur des filières de grandes écoles et pour garantir quand même, et c'est souvent le sentiment, semble-t-il, général, garantir des chances d'intégration dans la société plus importantes pour l'avenir?
C'est sûr, si on écoute ce que vient de dire Patrick Lemaire, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. On peut se dire, finalement, ça amène à rien. Je vais faire des années d'études et finalement, je vais pas avoir de travail ou je vais pas pouvoir faire les recherches pour lesquelles je m'étais destiné parce qu'il y aura aucun laboratoire qui pourra m'accueillir. Donc, c'est vrai que ça peut poser la question. Mais nous, on se replace toujours à notre niveau en lycée. Et par exemple, là, il y a quelques semaines, on a reçu une publicité d'une grande entreprise française qui fabrique des drones et qui annonce, cette année, on va recruter 100 ingénieurs. Donc, on reçoit dans nos écoles des publicités d'entreprises privées qui disent, on va recruter des ingénieurs. Et c'est vrai qu'à contrario, on reçoit jamais de publicité ou d'entreprise qui disent, ces 10 prochaines années, on va recruter un thésard spécialisé dans la mécanique des fluides ou des choses comme ça. Donc, c'est le problème toujours qu'on a dans l'esprit des gens, c'est qu'un chercheur, il est très pointu dans un domaine très précis, tandis que ingénieur, on utilise ça pour n'importe quoi. On dit ingénieur et puis on pense qu'il sait tout faire, alors que il y a des ingénieurs dans différents domaines. Donc peut-être que c'est ça dans l'idée que se font les gens et les étudiants en particulier, c'est peut-être ça qui fait peur. Si je me spécialise trop, peut-être que je pourrais pas trouver de travail. Donc si je prends une formation plus généraliste donc je pense que ça c'est plutôt ingénieur, peut-être que je pourrais trouver, j'aurais plus de chances de trouver un travail.
Patrick Lemaire.
Oui, en fait, le problème, c'est pas la spécialisation. Ce que l'on apprend dans un doctorat, c'est pas uniquement d'être spécialisé. Alors moi, je suis biologiste, je m'intéresse à des petits embryons très jolis, très transparents, d'un petit animal marin. Mais les doctorants qui sortent de mon équipe ne sont pas spécialisés exclusivement dans les embryons de ce petit truc. Qu'est-ce qu'ils auront appris ? Ils auront appris à parler en public, ils auront appris à avoir des réseaux internationaux, ils auront appris surtout, quand ils sont confrontés à un problème pour lequel il n'existe pas de solution, et ça... de solutions existantes, et ça arrive très souvent dans les entreprises, ils auront appris à disséquer ce problème. Comment réduire le problème à des choses que l'on peut analyser? Et comment trouver une solution? Ça, c'est quelque chose qui est quand même fondamental pour une entreprise, que ce soit une petite ou une grande entreprise. Disséquer un problème, avoir la démarche. En fait, la démarche du scientifique est différente de la démarche de l'ingénieur. Là encore, elle est complémentaire. C'est d'explorer, de trouver une solution là où il n'y en a pas.
Mathieu Bonafine, vous vous retrouvez dans cette définition ?
Parfaitement, je rejoins complètement Patrick Lemaire sur ce qu'il vient de dire. Je pense que l'image peut-être fausse qu'ont les gens d'un chercheur, d'un docteur qui est extrêmement spécialisé d'un domaine et qui finalement ne connaît rien au reste de la science. Je pense que ce qui est important, c'est pas la quantité d'informations qu'on connaît, c'est de savoir gérer l'information, gérer le savoir. Quand on est docteur, on sait analyser de la science, même de la science dont on n'a aucune idée et dont on ne sait rien, et on sait aussi analyser des situations, on sait décortiquer des situations, on sait trouver des solutions innovantes pour arriver à contourner un problème. C'est ça qui est très important, cette capacité de démarche, d'innovation et de gestion de problèmes. Et je pense que l'image qu'on a des docteurs qui sont très spécialisés, finalement, est complètement fausse.
Alors, si c'est un problème d'image, les problèmes des images, en général, ça se fabrique, ça évolue, c'est quelque chose qui est mouvant en fonction des efforts que l'on fait. Quand on voit ce que Patrick Lemaire nous raconte sur le crédit d'impôt recherche et sur ses difficultés, malgré tout l'argent investi par l'État pour convaincre les entreprises de faire appel à des chercheurs et qu'ils n'y arrivent pas, malgré ces incitations, ça prouve à quel point il y a un déficit d'image et que cette image dont vous parlez de quelqu'un qui a cette capacité généraliste, d'une certaine façon, d'analyser des problèmes et trouver des solutions, eh bien, image qui existe pour les ingénieurs, donc transposée dans leur domaine, n'existe pas encore pour vous. On n'arrive pas à se développer dans ce sens-là.
Non, c'est vrai, c'est une image qu'on a, qui a du mal à se créer, qui existe pourtant dans les autres pays, puisque diplôme est bien plus valorisé dans les autres pays.
Alors que faire, Patrick Lemaire, pour changer cette image, puisque finalement on arrive à la conclusion de cette émission sur un problème d'image?
Il y a effectivement beaucoup un problème d'image, et cette image, c'est essentiellement un problème de formation des gens qui décident actuellement. Dans notre pays, les gens qui décident au niveau politique, au niveau économique, au niveau administratif, n'ont finalement pas de connaissance de la recherche. Donc, n'ayant pas de connaissance de la recherche, ils ne sont pas capables de savoir qu'est-ce qui se cache derrière cette doctorante qui travaille sur le troisième poil du thorax d'une mouche. Ils n'ont pas l'idée de la démarche scientifique qu'elle peut apporter à leur administration, à leur entreprise ou à leur gouvernement.
Il faudra peut-être plusieurs générations pour que finalement le taux de docteurs dans les gouvernements augmente en France.
Une première chose déjà qui serait très très bien et qui est vraiment nécessaire actuellement, ça serait que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche redevienne un ministère. Actuellement, c'est un secrétariat d'État.
Absolument.
On doit ça à ce gouvernement.
C'est très alternatif.
Donner quand même deux idées de pourquoi c'est un problème. Alors, première, c'est les coupes budgétaires dont on a parlé en tout début d'émission. En fait, ont été décidés avec l'aval de la ministre de l'Éducation nationale, qui est la ministre de tutelle, mais sans avoir l'aval du secrétaire d'État, sans que lui-même ne soit consulté. Donc ça montre déjà un problème quand même important. Il faut un ministère de la recherche. Le deuxième, c'est ce qui est en train de se passer à l'INRA, où il y a une bataille pour savoir qui va être le prochain président de l'INRA. Et on a face à face, donc l'INRA a deux tutelles, le ministère de l'Agriculture et le secrétariat d'État à la recherche.
Je vais vous demander d'accélérer parce que là, on va arriver au terme.
Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un bras de fer entre un ministère de plein exercice et un secrétariat d'État. On peut espérer que le secrétariat d'État gagnera pour un organisme de recherche, mais ce n'est pas gagné.
Très bien, merci beaucoup. Le débat de Sciences Publiques d'aujourd'hui s'achève. Merci à Mathieu Bonafine, Valentin Doyen, Patrick Lemaire et Cyril Rouillère d'avoir participé à cette émission. Sur notre site, vous pouvez visionner la vidéo très intéressante donc de la présentation de Mathieu Bonafine qui lui a valu de gagner le concours national Ma Thèse en 180 secondes. Et vous pouvez réécouter cette émission pendant 1000 jours, la podcaster pendant un an et bien entendu nous faire part de vos réactions, commentaires et témoignages. C'est possible tout en bas de la page de Sciences Publiques. La semaine prochaine, vendredi 10 juin, Sciences Publiques se penchera sur la question délicate de l'utilisation des animaux dans la recherche scientifique, à l'image des souris qui collaborent aux travaux de Mathieu Bonafine d'ailleurs. Avec la dénonciation de la maltraitance dans l'élevage industriel, le changement de statut juridique des animaux ou le débat sur le végétarisme, la place des animaux dans la société est devenue une question très sensible. Leur utilisation dans la recherche est également sur la sellette avec une directive de la Commission européenne. Mais peut-on se passer du modèle animal? Quel poids peut avoir l'éthique dans un domaine où la concurrence internationale fait rage? Nous en débattrons avec nos invités Audrey Jougla, André Ménage, Brigitte Rouault et Thierry Galli. Sciences Publiques, Dany Journeau, Anthony Thomasson, avec Aubert Naturel pour France Bleu Hérault à Montpellier, Marie Dalquier, Michel Albergantier.